Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Glee, deuxième partie, leur histoire. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Alors, je vous ai laissé la semaine pour réviser, pour vous replonger dans Glee, la série musicale lancée en 2009 et qui est entièrement disponible sur la plateforme Disney+. Cette histoire de chorale pour les élèves rejetés par les autres, les New Directions, du lycée McKinley, et comment le talent de Finn, de Rachel, de Kurt, de Tina, de Artie et de Mercedes entre autres, une fois guidés par Will Schuster, les fait dépasser tous les préjugés et tous les opposants, avec à leur tête Sue Sylvester, la serbe patronne des Pom Pom Girls. Alors, j'admets que vous n'avez pas pu tout voir. Il y a tout de même 6 saisons et 121 épisodes. Mais je suppose que vous avez tout de même vu ou revu les meilleurs moments et les plus inoubliables prestations. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity. Bah, ou alors au moins les épisodes spéciaux, hein, ceux où on adapte des comédies musicales mythiques. Bon, ou alors peut-être les épisodes avec des covers de votre artiste préféré. Vous voyez, je vous propose plusieurs options, mais ça serait impardonnable de passer à côté de Glee tant les chansons sont éclectiques et leur interprétation redonne la pêche, l'envie de chanter et de danser. Mais vous le savez aussi, Glee, c'est aussi des histoires d'amour et de passion, des personnages et un univers qui vont au-delà des performances. Alors avant de reprendre le cours de la série avec ses deux dernières saisons et d'arriver à sa conclusion, on va laisser la parole à ceux qui l'ont fait, devant et derrière la caméra. Les créateurs et producteurs exécutifs, mais aussi les interprètes, dans des interviews qui ont été menées à l'époque même de la série, en 2010, 2011 et suivantes. Quelquefois, ce sont des soundbites, c'est comme ça qu'on les appelle dans le milieu, produits par les studios pour la promotion internationale de la série, et que l'équipe de Disney Plus a eu la gentillesse de récupérer. Et quelquefois, c'est à travers des entretiens que j'ai menés à Paris ou au Festival de télévision de Monte Carlo, accompagné de tout un groupe de journalistes, parmi lesquels Sébastien Marquet, Virginie Cellier, Romain Gita et Eric Bouche. Vous ne me croyez pas? Bah écoutez, Jen Lynch, je t'en parle.
On était au festival de télévision de Monte Carlo et on y faisait le buzz. On était nominés dans aucune catégorie, mais on était 4 sur place et on était les vedettes du festival.
Bon, Jen, pour être tout à fait exact, vous avez quand même remporté le prix de la presse. Hein. Mais donc, place à leur témoignage, et on commence par le créateur de la série, Ian Brennan.
J'ai été moi-même dans une chorale quand j'étais au lycée, un Glee Club. Et on était terribles, vraiment pas bons du tout. On n'a jamais rien gagné. Et j'ai encore des cauchemars à ce sujet. J'ai encore très récemment rêvé que je devais apprendre une chorégraphie pour un numéro. C'est vous dire à quel point ça m'a marqué. Je pense que le lycée reste toujours une période intéressante et que cela résonne aussi dans l'esprit de chacun d'entre nous. Tout le monde a des souvenirs intéressants de sa période au lycée. Je pense que personne n'a jamais trouvé cela ennuyeux. Et personne n'avait rien écrit sur les Glee Club. Je me suis donc dit que c'était nouveau. Et Ryan et Brad cherchaient à faire une série avec de la musique, pour la Fox. Ça a donc été une convergence d'opportunités. Je n'avais jamais vraiment écrit avant. J'étais un acteur, et c'était donc ma première chance d'écrire pour la télévision. Et ça a été étonnant.
Ryan Murphy, le producteur et co-créateur de la série.
Vous savez, le truc avec la série, c'est que je crois que les jeunes parlent de ces choses et font cela. Et je pense que la cause de la popularité de la série, c'est parce qu'elle est authentique. C'est drôle et quand c'est réussi, cela vous donne un point de vue, mais avec le sourire et sans insister. Ça ne marche pas à tous les coups, mais au moins on essaie. Et dans l'écriture, on essaie d'être juste avec ce que vivent les jeunes et ce dont ils parlent. You say yes, I say no.
You say you stop, I say go, go, go. Finn, la vedette de l'équipe de football qui trahit les siens en rentrant au Glee Club, Cory Monteith.
I've always felt the need to...
J'ai toujours ressenti que, surtout quand on est ado, on est en conflit avec sa propre identité. Et moi, carrément, je recherchais à travers quel groupe ou quel club ou quelle identité me convenait le plus, et j'ai recherché cela pendant pas mal de temps. Donc, à titre personnel, je m'identifie très bien à ça. Et je pense donc que beaucoup de gens se verront eux-mêmes dans pas mal de personnages de la série. C'est très identifiant. Car vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'une série s'adresse à une si vaste audience et leur offre de se retrouver dans ces personnages.
Rachel Berry, la diva arrogante, incarnée par Léa Michel.
Nous sommes les représentants de cette équipe disparate de jeunes différents et nous ne sommes au fond que des enfants. Je pense que c'est formidable, car on peut retrouver en eux ce que sont les étudiants dans les lycées et tout ce qu'ils traversent. J'adore jouer Rachel. J'adore le fait qu'elle est exubérante et très à l'aise dans sa peau. C'est génial. Et le message que ça envoie, que ces personnages envoient, c'est que c'est OK d'être qui vous êtes et que vous devez vous accepter tel que vous êtes. Et pas de vous faire piéger dans ce que les gens pensent être important au lycée. Écoutez la voix qui est en vous. Soyez bien dans votre peau.
Dante Di Loreto, producteur exécutif de la série. One of the keys is
we're using music that L'élément fondamental est que nous utilisons des chansons que la majorité des fans connaissent. La chose la plus motivante avec la série est qu'elle transcende les générations. Les enfants entendent une chanson qu'ils ne connaissent pas. Les parents se souviennent de la chanson quand elle est sortie. Et les deux vont se retrouver dans cette musique, car une bonne chanson reste éternelle. You know you, you make me feel so good inside. I always wanted a girl just like you, such a PYT,
pretty young thing. Oh. Kevin McHale, l'interprète d'Artie. I think it's a combination
of the music that people. Je pense que c'est à la fois des chansons avec lesquelles les gens ont grandi, ou qu'ils entendent pour la première fois, ou qui passent à la radio. Et on traite cela de façon très différente. Ce n'est pas comme un vidéoclip, cela s'intègre à l'histoire. Les personnages ont une raison pour chanter. Et il y a aussi le fait que nous allons à l'opposé des stéréotypes qui ne sont pas généralement très représentés à la télévision, mais qui sont là, sur le devant de la scène. Les minorités, celui dans son char, le jeune gay par exemple, et on leur donne une voix à tous.
Ryan Murphy, producteur et co-créateur de la série.
Vous savez, c'est à peine croyable. Quand on a fait le pilote, on était tous en train d'espérer qu'il soit retenu, afin que nous puissions tous être encore ensemble. Mais bon, ce sera sans doute annulé après 12 épisodes. Et puis, peut-être pas. Mais on ne s'attendait vraiment à rien. Donc, de partir de ce « on espère être à l'antenne » à briser des records de vente, c'est juste hallucinant. Et la chose qui est bien pour la série, c'est que nous avons pris le temps en tant que famille et que membres de la distribution de savourer ce moment tous ensemble et de se réjouir pour tous ceux qui ont eu du succès et que c'est reconnu. Ça n'arrivera probablement plus, c'est une expérience unique dans notre vie d'avoir à la fois cette frénésie et cette popularité.
Ian Brennan, le créateur de la série.
Une fois qu'on a choisi une chanson, ça part tout de suite à notre département des droits pour obtenir l'accord de l'utiliser. Puis, ça va directement à notre producteur musical qui en fait une version de démonstration. Puis les interprètes apprennent la chanson et la chantent, et ils doivent aussi apprendre la chorégraphie. Mais aussi, en plus de cela, ils doivent apprendre leur dialogue et puis passer au tournage de ces scènes. C'est permanent. Ça revient à courir sur un tapis roulant pendant 52 semaines.
Le producteur exécutif Dante Di Loreto.
C'est un de nos plus importants défis, de créer une série avec le planning d'une série télé. Et c'est extrêmement difficile, parce qu'il nous faut lancer les chansons que nous souhaitons avoir avant d'avoir un script complet. Ryan, Ian et Brad font un résumé de l'histoire, un synopsis. Et Ryan va choisir les chansons qu'il veut utiliser. Ian et Brad vont aussi contribuer à ce choix. Puis commence pour nous le processus d'obtention des droits, et c'est quelquefois très difficile. Il arrive qu'on ne puisse pas contacter les gens qui détiennent ces droits. Mais la bonne nouvelle est que, avec le succès de la série, les gens sont de plus en plus ouverts et intéressés d'avoir leur musique dans la série. Mais quelquefois, il nous faut joindre et avoir l'accord de 4 ou 5 personnes qui possèdent les droits d'une chanson.
Gina Huskovitz, qui tient le rôle de Tina.
Ça prend 8 jours pour tourner un épisode. On reçoit le script de l'épisode suivant alors qu'on est sur le tournage de l'épisode précédent. Donc ça revient à tourner un épisode et à préparer le suivant. Si on n'est pas sur le tournage pour une journée ou une demi-journée, on se rend au studio de danse et on répète avec une version de démonstration. Et puis, certains d'entre nous, qui doivent enregistrer et chanter, vont au studio d'enregistrement et font ça en 1 ou 3 heures d'enregistrement. On a ensuite la version finale, 2 jours plus tard. Ensuite, on répète avec la version définitive de la chanson, et puis on la tourne. Ça peut nous prendre entre une demi-journée jusqu'à une journée.
Cory Monteith, alias Finn.
J'ai débarqué sans aucune expérience. Je n'avais jamais fait quoi que ce soit de tel avant. Je n'avais jamais auditionné de cette façon. C'est la première fois que je chante pendant une audition. C'est donc tout nouveau pour moi. Et ça a été un pas après l'autre, et surtout, ça a été de faire confiance à ceux qui dirigent cela. On a la chance d'avoir des chorégraphes, des réalisateurs et des producteurs qui ont tous un immense talent, et on travaille tous ensemble. Cela fait que j'ai tout ce qu'il faut pour faire une performance.
Léa Michel, alias Rachel.
On a des numéros chantés incroyables. On a fait des chansons de Beyoncé, Miss Amber Riley. On a fait d'incroyables séquences musicales. Dans un épisode, je passe des Rolling Stones à Barbara Streisand, mixée dans une chanson des Stones. Ce qui paraît dingue, mais c'est énorme. Et on a aussi le triangle amoureux Finn, Quinn et Rachel. Et il y a des trucs fous qui se produisent. C'est du Ryan Murphy. Alors vous pouvez être certain de ne pas avoir votre scénario traditionnel, n'est-ce pas? Quand vous pensez savoir où cela va nous mener, il prend une direction totalement étonnante, brillante et différente.
Mais le plus inattendu, c'est que la série est rentable et même profitable grâce à ses ventes de morceaux musicaux. Ian Brennan, le co-créateur de la série.
Ce qui est bien à ce sujet, c'est qu'on n'a pas décidé en réunion préparatoire « Écrivons une série télé qui nous fasse vendre 1 million de disques ». Ce qui nous aide avec la vente des morceaux, avec tout le merchandising, avec les tournées, c'est que cela nous aide à faire la série. La série coûte cher et cela nous permet de conserver une haute qualité de production et donc de garder cette qualité visuelle. Nous sommes l'une des dernières séries à se tourner sur pellicule alors que la plupart des autres séries sont maintenant sur support numérique. Nous, on continue d'être sur pellicule, ce qui est coûteux et demande plus de temps.
Chris Colfer, l'interprète de Kurt.
Quand j'ai lu le script, ma première connexion avec le projet fut que la série parlait de jeunes qui étaient exactement comme moi. Je veux dire, j'étais moi exactement comme eux. Quand j'étais au lycée, j'étais un très grand fan des comédies musicales. Et j'adore les chansons qui y sont. J'étais donc tout simplement ravi qu'une série télé se fasse avec des enfants qui me reflétaient moi.
Amber Riley dans le rôle de Mercedes Jones.
Je crois qu'au départ, on ne voyait en Mercedes que le stéréotype, la diva qui ne veut pas chanter dans les chœurs. Mais au fil de la progression de la saison, vous voyez en elle une amie. Et on montre vraiment son côté humain dans l'épisode Home Sweet Home, où elle est confrontée à elle-même et apprend à s'apprécier. Et je pense que ce que vous voyez est donc une version plus soft de Mercedes au fil des saisons. C'est très gratifiant, vous savez. C'est difficile et c'est presque tabou de viser les chansons numéro 1. Et on a pu faire énormément de tubes. Imagine ou Somebody to Love, Don't Stop Believing, tous ces tubes, et on est parvenu à les faire. Et la chance, c'est que les artistes nous disent « Allez-y, vous êtes la nouvelle génération. Donnez un coup de neuf à nos chansons. »
Yann, quel est votre personnage favori?
Sue Sylvester.
Oui, elle explose littéralement.
Oui, elle est parmi les meilleures. C'est le personnage que je bénis de pouvoir écrire. Et c'est une vraie joie à chaque fois que je m'y mets. Très vite, on a accès à elle. Quelle est la chose la plus méchante que je pourrais dire? Et si vous pensez de cette façon-là, ça vous vient très vite. Vous devez penser au plus d'insultes ad hominem possible, généralement envers Will Schuster et les enfants. Et c'est génial, parce que c'est un aspect qui coupe tout le côté sentimental de la série. Et cela nous permet d'être plus cyniques que les plus cyniques de nos détracteurs.
Sue Sylvester n'était pas dans le pilote original de la série. Mais c'est le patron de la chaîne Fox, Kevin Reilly, qui a dit à Ryan Murphy qu'il fallait absolument un méchant. L'interprète de Sue Sylvester, Jane Lynch.
Il y a un tyran qui sommeille en moi. Et je le laisse surgir quand je joue Sue Sylvester. Mais en fait, je n'arpente pas la vie comme elle. Mais c'est vraiment marrant de la laisser en liberté à l'intérieur d'un survêtement. J'adore. J'adore pouvoir dire exactement ce qui me passe par la tête.
Parce que soyons honnêtes, Glee ne parle pas d'un groupe de jeunes qui chantent, ça parle de Sue.
Ça parle de Sue Sylvester, absolument. Je l'ai toujours pensé.
Et ça vous plaît?
J'en suis très heureuse. Bon, ce n'est qu'un seul aspect de la série, bien sûr. Mais je pense que d'avoir un vilain est un aspect important. Et j'adore qu'il ait fait de Sue Sylvester un personnage aussi extrême. C'est une guerrière, elle cherche sans cesse la bagarre. Même quand les gens lui proposent de faire la paix et qu'il n'y a pas de raison de s'affronter, elle inventera les raisons. J'adore ça.
Mais la chanson reste au cœur de la série et lui permet de devenir un véritable phénomène. Léa Michel.
Je pense que la musique est assurément le troisième membre du Glee Club, ou peut-être le directeur de notre lycée, ou quelque chose comme ça. La musique est une part importante de notre série, et on bénéficie d'un des meilleurs producteurs musicaux, Adam Anders. Et nous avons aussi Ryan Murphy, qui a une connaissance musicale incroyable. Il a carrément tout le catalogue d'iTunes dans le cerveau. Et maintenant, les artistes nous confient leurs chansons, ce qu'ils n'auraient sans doute pas fait lors de la saison 1. Et c'est si génial de lire un nouveau scénario chaque semaine et de voir ce qu'on va chanter et avec qui on va jouer. Vous voyez ce que je veux dire?
Matthew Morrison, l'interprète du professeur de chant Will Schuster.
Durant la première saison, on essayait tous de comprendre ce que la série était pour nous. On avait tourné les 13 premiers épisodes avant que la moindre diffusion ne commence. On vivait un peu dans notre bulle. Mais je pense que personne ne s'en préoccupe plus, car c'est devenu une machine bien huilée. Maintenant, on sait ce que c'est et comment faire pour que ça marche. Parce qu'il y a un moment où on avait les répétitions de danse, l'enregistrement en studio et le tournage en même temps. Ça reste un boulot de malade. Mais en fait, cela me fait comprendre pourquoi une autre série musicale n'est jamais venue ou pourquoi ça n'a pas eu de succès. C'est tellement complexe à faire. Mais avec la saison 2, on en sait un peu plus sur les personnages. On aura des vedettes invitées, mais on se concentre toujours sur le lycée McKinley's High et sur mes relations et sur les relations de Sue. Je pense que c'est ce que les gens veulent voir au cœur de la série.
Après une frénétique saison initiale, la saison 2 est lancée sur le succès de la première. Jane Lynch, alias Sue Sylvester. Ou est-ce que c'est l'inverse ?
Alors voyons voir. J'épouse quelqu'un durant la saison. Je me marie. Je ne vous dis pas avec qui. Et j'ai un très beau survêtement qui est fait en robe de mariée. Je suis en duo avec Carol Burnett. On va en découvrir bien plus sur ma sœur Jean et on commence à apprendre ce qu'a été son enfance. Avec Carol Burnett donc, qui chasse les nazis, qui a traqué le dernier nazi en date et est de retour à la maison pour voir comment vont ses filles après, on va dire, 30 ans.
Un personnage qui n'apparaissait que dans 3 épisodes de la saison précédente mais devient de plus en plus important par la suite, c'est Becky, qui postule en tant que Popham Girls et rappelle à Sue sa propre sœur qui est, elle aussi, une trisomique. Jane Lynch.
Ce fut une surprise pour moi à la lecture de l'épisode. Pourquoi je choisis cette fille atteinte du syndrome de Down plutôt que les autres? Je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Je vais être détestable avec cet enfant. Et ensuite, il révèle pour sa sœur, et là, ma mâchoire en est tombée à terre. J'ai trouvé cela brillant, vraiment brillant. C'est dans la droite ligne de ce que Ryan veut faire avec la série. Des gens qui sont d'apparence mis de côté, qui se retrouvent ensemble.
Mais celui qui devient une véritable icône dans cette saison 2, c'est Kurt, et avec son interprète, Chris Colfer. All that work and what did it get me? Why did I do it? Scrapbooks full of me in the background. Quel est votre morceau favori ?
Jusqu'à présent ? Je pense que c'est Rose Turn pendant la saison 1. Lors de la tournée aussi, c'était mon moment préféré.
Vous savez qu'on ne peut pas s'empêcher de pleurer quand vous chantez à When I Hold Your Hand.
Oui, je sais. Ça m'ennuie. Je ne veux pas faire pleurer les gens.
Soyez pas désolé. Hein. Ça véhicule beaucoup d'émotions.
Oh, merci. C'est ce que j'aime entendre. Quand les gens ressentent une émotion après une chanson, et je crois que la meilleure chose avec la série, c'est quand je suis capable de la rendre assez réelle pour que les gens puissent y être connectés. Et que je ne fais pas une interprétation trop outrancière, mais crédible et pas trop théâtrale. Yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I think whenever I go to the recording studio. Quand moi je vais enregistrer un titre, je joue le personnage. J'enregistre la chanson en tant que personnage. J'y ajoute ma façon de jouer, les mots, la respiration, les bruits que je fais. Je suis totalement impliqué à le faire pour le personnage et pour le jeu que j'y mets. Si je devais la chanter en tant que moi-même, je ne le ferais probablement pas. Si je chantais « I wanna hold your hand » en tant que moi-même, ça ne rendrait pas aussi bien que si je savais que c'est Kurt qui chante ça à son père qui est à l'hôpital, mal en point. Je veux dire, ce sont des choses que l'on doit prendre en considération.
Cory Monteith, alias Finn. You think I'm pretty without any
makeup on. You think I'm funny.
C'est très intéressant d'avoir autant d'impact avec des chansons que nous n'avons pas écrites. C'est donc le défi de Glee, de constamment redéfinir la façon dont nous présentons ces chansons. Et c'est intéressant tout spécialement avec la chanson de Katy Perry. Teenage Dream. Moi, je n'ai rien à voir avec la production de ces chansons. Alors, j'ai scrupuleusement suivi la façon dont ils procèdent et c'était un arrangement incroyable. Et je pense que c'est le défi pour nous. Plutôt que d'être de simples chansons en mode karaoké, d'ajouter et d'apporter quelque chose à l'œuvre.
La saison 3 se présente comme un retour aux bases de la série après les excès de la 2. Cory Monteith à nouveau, l'interprète de Finn.
Dans la saison 2, à cause de la popularité de la série qui a littéralement explosé, on pouvait faire absolument tout ce que l'on voulait. J'ai bien senti qu'on pouvait écrire un épisode entier autour d'un seul artiste, faire des épisodes à thème et faire des numéros musicaux démesurément grands. Et de concrétiser tous ces rêves artistiques. Et je pense que tout cela nous a détourné de l'histoire, de l'arc narratif à long terme pour les personnages, ce qui a été établi. Donc, la saison 3 est plus soutenue par la musique que l'inverse. On revient aux chansons qui sont choisies pour soutenir l'arc narratif. Et pas pour être dans ces épisodes hommages comme on en a fait en saison 2. On est vraiment revenu à la base.
Kevin McHale, alias Artie Abrams.
Dans un sens, la saison dernière, il y avait des guest stars, des grands spectacles et des numéros gigantesques. Mais on a toujours fait cela et on continuera à le faire, mais dans un sens, on se retrouve un peu plus comme dans la première saison, quand il y avait moins de numéros musicaux par épisode, et que c'était vraiment l'histoire qui menait la série. Car je pense que quelquefois, la saison précédente, on avait trop de numéros compressés les uns sur les autres, et ce n'était plus sur l'histoire, mais sur les performances. Mais je crois que maintenant, on a atteint un bon équilibre.
Ian Brennan, le co-créateur de la série.
Ce que l'on ne veut pas, c'est que les chansons soient arbitraires, ou que les personnages se mettent soudain à chanter sans raison. Et ça, ça reste toujours notre défi, que les chansons soient intégrées à l'histoire du mieux que nous pouvons. Et quelquefois, ça fonctionne mieux que d'autres fois. Moi, ce que j'aimerais, mais je sais que l'on ne pourra jamais le faire, que ce n'est pas la nature de la série, c'est d'écrire un épisode sans musique. Made a wrong turn once
or twice. Dug my way out. Pour Kurt, la saison 3 est celle où il forme un couple avec Blaine. C'est le fameux Clayne.
J'adore la relation qu'il vit avec Blaine, mais j'aimerais bien les voir au centre d'un conflit, qu'il y ait un peu de rivalité avec Sébastien quand il débarquera et faire un peu bouger les choses, vous voyez ?
Léa Michel, à l'aube de la quatrième saison de la série.
C'est une série totalement différente maintenant. Je pars du travail dans une chorale avec, je crois bien, près de 40 participants vers la fin de la saison 3. Comme s'ils se multipliaient, pour maintenant travailler dans des nouveaux décors. Je suis dans mon studio de danse à la Niada. Et c'est superbe, les décors sont splendides. Et c'est un monde tout nouveau, maintenant différent de celui où je travaillais les trois dernières années. Tous les jours, j'étais avec mes amis, et maintenant ils ne sont plus là. Et je pense que c'est vraiment intéressant, car Rachel est dans un seul endroit. Dorénavant, elle n'est plus avec ses amis et les gens qui la mettaient à l'aise. J'utilise cela pour m'aider.
Et Léa Michel est comblée puisqu'elle va pouvoir jouer aux côtés d'une vedette qu'elle vénère.
Sarah Jessica Parker, pour une fille de mon âge, c'est le top. Elle a joué le personnage le plus iconique pour des jeunes filles, Carrie Bradshaw. Mais en plus, je suis fan de tout son travail. Et c'est marrant parce que quand j'ai lu le scénario du troisième épisode de la saison Makeover avec la description de son personnage, c'est tellement différent de tout ce qu'elle a déjà joué que j'ai complètement oublié que j'allais être avec Sarah Jessica Parker. J'étais si contente de voir ce personnage. Et je pense qu'elle va faire une excellente prestation. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case.
La cinquième saison de Glee est donc marquée par plusieurs événements, à commencer par la disparition tragique de l'acteur Corey Monteith. Le troisième épisode de la saison, baptisé The Quarterback, lui est entièrement consacré. Et avant ça, c'est un épisode très attendu, un double épisode, avec uniquement des chansons des Beatles qui ouvrent la saison. C'est d'ailleurs à la fin de ce double épisode que Blaine propose le mariage à Kurt. À New York, l'aventure continue. Rachel tente de décrocher le rôle principal de la comédie musicale Funny Girl dans une grande production de Broadway, tandis que Kurt découvre la dure réalité de la prestigieuse école artistique Les Noyers Day. Kurt et Rachel auront aussi la surprise d'être rejoints à New York par Santana, une cohabitation qui ne sera pas de tourpeau, mais ils n'oublieront pas non plus leurs racines en créant leur propre groupe, Pamela Lansbury. Odyssey McKinley, la remise des diplômes et la finale nationale du championnat des chorales approchent. C'est le début de la fin pour les élèves de Winchester. Remise en question et angoisse sur l'avenir seront leur lot quotidien. Car si Artie veut faire une école de cinéma à New York et Blaine souhaite rejoindre le NYAA, Sam et Tina ne savent pas encore ce qu'ils feront l'année prochaine. Cette saison, la série atteint également son 100e épisode, l'occasion d'un véritable tournant pour le concept même de Glee. Sue Sylvester devient proviseur du lycée, elle va stopper le Glee Club en lui retirant les fonds. La série fait alors un time jump, bon, c'est-à-dire un saut de quelques mois, et se focalise maintenant sur la carrière des personnages à New York. On oublie donc totalement tous les nouveaux personnages du lycée McKinley. La série prépare ainsi sa 6e et ultime saison qui s'annonce étonnante. La 6e saison démarre en janvier 2015 et ne comptera que 13 épisodes, jusqu'en mars. Rachel Berry ayant échoué lamentablement avec sa propre série télé, qui a été au final annulée, elle revient à McKinley pour reformer un Glee Club. Pas simple, puisque M. Schuster est dorénavant le coach d'un autre club, les Vocaux L'Adrénaline, et que Blaine, lui, est le patron des Warblers. Le nouveau New Direction remporte la compétition et Sue Sylvester est virée en tant que directrice. Santana et Brittany, elles, vont se marier. Hope when you take that jump. Si l'avant-dernier épisode de la série, intitulé 2009, est un préquel du tout début de la série avec Rachel, Kurt, Mercedes, Artie et Tina juste avant leur intégration au Glee Club, dans le tout dernier épisode de la série, Will devient le principal de McKinley. Et McKinley devient elle-même une école des arts. 5 années plus tard, on nous montre que Rachel s'est mariée à Jesse St. James. Elle remporte même un Tony Award et est mère porteuse pour Kurt et Blaine. Artie est devenu réalisateur. Tina est la vedette de son film. Mercedes a une triomphale carrière de chanteuse. Quant à Sue Sylvester, elle est devenue vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Et lors de la chanson finale, tous les anciens membres du Glee Club font une apparition. Voilà, le 20 mars 2015, le rideau tombe définitivement sur Glee, avec certes bien moins d'audience qu'à ses débuts, en étant aussi un peu oublié de tous ceux qui l'avaient porté au nu, à peine une page dans des magazines qui auparavant lui avaient consacré plusieurs numéros. Mais au-delà de la hype, au-delà des drames, au-delà des faiblesses et des polémiques, Glee a été la voix des sans-voix. Elle a irrémédiablement changé la perception de la télévision pour de nombreuses minorités et a rendu cool les comédies musicales. La semaine prochaine, je vous embarque sur la Lune. Une Lune à la dérive, sur laquelle se trouve la base lunaire Alpha et son commandant, John Koenig. Je vous entraînerai dans le cosmos de l'ère 1999. Ce podcast est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox et Overcast.